chers amis, bonjour. Les Baraïs de Chambéry sont très heureux de vous accueillir et vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes réunis cet après-midi pour exposer et débattre sur le thème « La paix, justice et institutions efficaces ». Ce thème fait partie des 17 objectifs de développement durable de l'ONU mis en place en 2015, qui était promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Donc pour parler de ce thème cet après-midi, nous avons la grande joie d'accueillir avec nous M. Mahmoud Samandari. Alors, M. Samandari vit à Genève. Il est docteur en droit international de l'Institut des hautes études internationales de Genève. Il est membre de la communauté Baha'i et de ses institutions locales et nationales en Suisse, en Équateur, où il a vécu pendant 18 ans. Il est secrétaire général de EBBF, le Forum européen Baha'i d'affaires. Il est secrétaire général du Forum pour la gouvernance globale. Il est fondateur de plusieurs entreprises en Europe et en Amérique latine, dédiées à l'éducation à distance par satellite, développement de micro-entreprises et services de télécommunication et informatique. Bien, donc, je vais laisser M. Samandari nous exposer cela. Et encore une fois, mille fois merci d'être là avec nous cet après-midi.
Merci beaucoup et c'est un grand plaisir d'être de retour à Chambéry. Les premières visites à la communauté naissante de Chambéry datent d'il y a plus de 40 ans. C'est toujours un plaisir de retourner et rencontrer les amis par ici. Et le thème que nous avons ce soir est un thème vraiment énorme et évidemment nous allons nous concentrer sur un de ces aspects, donc cette paix, justice et institutions efficaces, et on va parler en particulier des institutions et de la réforme, et la réforme de ces institutions. On va commencer par les conclusions. Parfois, c'est utile aussi. Les conclusions, en fait, ça va être que d'abord, la société mondiale et les êtres humains ont une abondance de talents, de potentiels et d'opportunités pour créer un monde meilleur. D'autre part, les énormes défis auxquels l'humanité est confrontée sont tous liés entre eux et constituent un tout. Évidemment, la preuve la plus évidente de cela, c'est justement la crise de COVID que nous sommes en train de traverser maintenant. Et il y a une autre conclusion qui est certaine, c'est que chaque membre de la société mondiale, les citoyens ordinaires comme nous ici, a le pouvoir et la responsabilité de contribuer à l'amélioration du monde. Et finalement, le problème n'est pas un manque de solutions créatives. Nous vivons à l'ère du savoir et de l'expertise. Notre problème est, au contraire, un manque de volonté, un manque d'imagination et un sens de la solidarité qui est peu développé. Avant de discuter des réformes du système de gouvernance globale, donc les institutions efficaces, et j'aimerais rappeler quelques réalisations de la société internationale, du monde. Et depuis, au cours du siècle passé, nous avons eu d'abord la création de plus de 150 États nouveaux indépendants depuis 1945. Nous avons eu, pendant ce siècle passé et le début de celui-ci, une amélioration des indicateurs économiques mondiaux et une réduction de pauvreté de manière globale. Nous avons une coopération internationale dans divers domaines par le biais des institutions spécialisées de l'ONU, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation internationale du travail, l'OMS même qui a été énormément critiquée. N'oublions pas quand même que l'OMS a été responsable pendant les années 80 de l'éradication pleine et entière d'une maladie de la surface de la Terre, ça veut dire de la variole. Donc, quand les États ont bien voulu collaborer ensemble, effectivement, ils ont pu faire quelque chose qui n'avait pas de précédent en l'histoire de l'humanité. Nous avons aussi l'adoption des buts de développement, des objectifs de développement durable qui ont été mentionnés, et les SDG, et finalement, l'apparition des médias sociaux et leur croissance phénoménale comme instrument de changement. On ne va pas entrer dans les détails, mais seulement penser que le printemps arabe essentiellement a été provoqué par l'existence des réseaux sociaux. Et finalement, il y a quand même la reconnaissance de l'interdépendance de tous les acteurs de la scène mondiale, puisque de plus en plus, on a une collaboration entre les États, les entreprises, la société civile, de plus en plus. Et c'est un fait que ces progrès ont été chaotiques et inégaux, ce qui nous a amené à l'état actuel des choses. Je vais en utiliser quelques exemples. D'abord, nous avons, à côté de tous ces progrès et tous ces bénéfices, une crise migratoire mondiale qui dépasse tout ce que nous avons connu dans le passé. Nous avons évidemment le terrorisme, nous avons l'incapacité à contrôler la corruption, nous avons la réduction des libertés au sein même des démocraties, nous avons une désillusion publique face à la politique partisane des États, nous avons les tendances des gens à faire confiance au populisme, nous avons un manque de contrôle sur les flux financiers, nous avons plus de 800 millions de frères et sœurs analphabètes sur cette terre, nous avons 800 millions d'enfants mal nourris et parmi les niveaux de revenus et des capacités de production les plus élevées en même temps que nous avons des niveaux de richesse les plus élevés de toute l'histoire de l'humanité. En fait, au niveau international, la réponse de l'humanité aux deux fléaux du siècle passé, les deux guerres mondiales, était la création de nouvelles institutions. Après la Première Guerre mondiale, on a eu la Société des Nations et après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu l'Organisation des Nations Unies. Les deux ont constitué un énorme progrès sur ce qu'il y avait avant. Avant ces deux institutions, il n'y avait aucun endroit, aucun espace pour les différents États de se réunir et de converser entre eux. C'est déjà un certain progrès. Mais d'autre part, les circonstances sont aussi différentes dans le sens d'une augmentation du danger. En 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait à peine une dizaine d'ogives nucléaires, à part les deux qui ont été utilisées au Japon. Aujourd'hui, 14 400 armes nucléaires gisent partout dans le monde, prêtes à détruire entièrement, en fait détruire 7 fois la planète si elles étaient toutes utilisées. Nous avons donc de très grands défis devant nous. Donc, il ne peut y avoir qu'une solution globale et cette solution globale est impossible sans la coopération internationale. Le moment donc est venu de procéder à une réforme fondamentale des institutions internationales que nous avons, par exemple l'ONU. Il y a 2 ans, une fondation suédoise a lancé un défi pour qui allait proposer le meilleur projet de réforme de gouvernance internationale. Environ 14 000 personnes ou institutions ont déclaré leur intérêt. 2 700 projets spécifiques ont été offerts. Et sur ces 2 700 projets, il y en a 3 qui ont été choisis. Le premier de ces projets est un projet présenté par 3 amis Bahaï qui ont suggéré une réforme du système des Nations Unies. Nous allons parler très rapidement des différents volets de ce projet. D'une part, c'est une réforme du système de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, vous savez, l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas énormément de pouvoir parce que tous les États y sont représentés avec le même vote, le même nombre de votes. Et par conséquent, les grands États, les 5 qui ont le pouvoir de veto au sein du Conseil de sécurité, ne veulent pas laisser à l'Assemblée générale avoir les compétences qu'il faudrait. Dans cette proposition, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a une réforme de ce système et surtout l'abolition du droit de veto des 5 puissances principales. Il y a la création d'une deuxième Assemblée mondiale, à part l'Assemblée générale des Nations Unies, qui aujourd'hui malheureusement ne représente pas les nations, mais représente les États, et encore moins les États, mais seulement les gouvernements. Donc cette proposition tend à créer une deuxième assemblée parlementaire où effectivement les individus ou la société civile seraient représentés comme un organe consultatif au début. Et il y a aussi une proposition d'un nouveau mécanisme de financement pour l'ONU. Et le but d'avoir la deuxième chambre, c'est tout simplement répondre à ce que la Charte des Nations Unies annonce dans son premier article. La Charte des Nations Unies commence avec « nous, les peuples du monde ». Et aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies ne représente pas les peuples du monde. Donc, il y a une proposition concrète. D'ailleurs, toutes ces propositions dont je vous parle font l'objet d'un livre qui vient de sortir par la presse de l'université d'Oxford, de Cambridge. C'est un livre de 540 pages. Il est disponible pour télécharger sur un site dont je vous donnerai l'adresse par la suite. Donc, vous pouvez obtenir ce livre qui est en anglais, mais avec beaucoup de détails sur chacune de ces propositions dont nous allons parler. Donc, l'objectif, c'est de renforcer le caractère démocratique de l'ONU en faisant participer tous les peuples de la Terre aux délibérations des Nations Unies. Et il y a un autre volet pour cette proposition assez importante, qui est la création d'une force internationale de sécurité. Aujourd'hui, l'ONU n'a que des activités de ce qu'on appelle maintien de la paix, et qui sont des activités très spécifiques, pas générales. Il y a quelque part une crise et on crée une force spéciale avec représentation de tous les États, de certains États qui participent à la force. Aujourd'hui, par an, les dépenses militaires atteignent environ 1 700 millions de dollars par année. Donc, 1,7 milliards de dollars par année sont dépensés dans les dépenses militaires, tout simplement parce qu'il n'existe pas un mécanisme de sécurité collective. Mécanisme qui a été proposé déjà il y a plus de 150 ans par Baha'u'llah. Nous allons voir à la fin les citations Baha'i au sujet de ce projet. Et donc, l'idée, c'est, avec calcul, avec recherche, avec documents à l'appui, qu'avec une force internationale de 800 000 membres, une force internationale de 800 000 membres, constituée de représentants de toutes les nations du monde, nous pouvons assurer la sécurité du monde avec un budget de 70 milliards de dollars. Un cinquantième environ de ce qui est dépensé aujourd'hui pour les dépenses militaires. Et cette force internationale de sécurité, évidemment, serait composée des membres, des personnels de tous les pays du monde et représenterait effectivement les intérêts de toutes les nations. Donc, 800 000 membres, effectivement, avec une dépense totale de 70 milliards de dollars. Et, en fait, il y a une autre statistique horrible. L'impact économique total de la violence, tout simplement, sur l'économie mondiale en 2015 était de 13,6 milliards de dollars, soit environ 18% du PIB mondial. Ça veut dire 1876 dollars par personne par année a été l'impact de la violence dans le monde. Une force internationale de sécurité créée de manière consensuelle avec un désarmement partiel de la part de tous les États, effectivement, nous ferait économiser tout cela. Ensuite, il y a un nouveau mécanisme de financement proposé pour les Nations Unies. Aujourd'hui, le système de financement des Nations Unies, et quand on parle du système des Nations Unies, il y a d'une part l'ONU, l'Organisation des Nations Unies elle-même, ensuite les agences spécialisées pour la santé, pour le travail, pour les télécommunications, etc. Et le budget total de ces institutions est environ 40 milliards de dollars. Malheureusement, mal dépensé. Parce que pour chaque fois qu'on veut utiliser une partie de cela, il faut obtenir l'accord de 180, 185 États membres. Et par conséquent, l'utilisation de ces budgets est extrêmement politisée. Et non seulement une fois, mais plusieurs fois. Parce qu'à l'intérieur de l'Organisation mondiale de la santé, il y a les 180 et quelques États membres. À l'intérieur de l'ONU elle-même, il y a 180 et quelques États membres. Dans chacune de ces organisations, il y a une grande quantité d'ingérence politique dans les affaires. Notre proposition, c'est avec 0,1% du PIB de chaque pays contribuer pour le système des Nations Unies. D'abord, on aurait un budget plus élevé, 75 milliards de dollars de budget pour l'opération de ces institutions, et une manière beaucoup plus logique et raisonnable de distribution de ces budgets. Et tout ceci, évidemment, recherché intellectuellement, scientifiquement, avec des preuves à l'appui, mais il n'est pas suffisant. Du point de vue Baha'i, ce que nous avons lu récemment dans un des messages de la Maison universelle de justice, c'est, et je cite, « Reconnaître quelque chose par principe est une chose. Y adhérer de tout son cœur en est une autre. Et il est encore plus difficile de refaire la société de manière à l'exprimer d'une manière collective. C'est pourtant le but des communautés à travers le monde qui prennent modèle sur les enseignements de Baha'u'llah. Ces communautés s'efforcent de concentrer la lumière de ces enseignements sur les problèmes chroniques qui affligent les sociétés dans lesquelles elles vivent. Elles élaborent des programmes d'action concrètes, centrés sur des préceptes spirituels. » Dans un autre message, la Maison universelle de justice nous dit « Nous arrivons au cœur de notre propos. Il s'agit d'une question difficile et elle requiert de la franchise. Il existe de nombreuses causes nobles et admirables dans le monde. Et elles découlent de perspectives particulières, chacune ayant son propre mérite. La cause de Baha'u'llah est-elle simplement l'une d'entre elles? Ou est-elle universelle, incarnant les plus hauts idéaux de toute l'humanité? Après tout, une cause destinée à devenir la source de justice et de paix durable, non pas pour un lieu ou un peuple en particulier, mais pour tous les lieux et tous les peuples, doit être inexhaustible. Elle doit posséder une vitalité céleste qui lui permette de transcender toutes les limites et d'englober toutes les dimensions de la vie de l'humanité. En définitive, elle doit avoir le pouvoir de transformer le cœur humain. Alors, à l'instar de l'invité du Bab, observons attentivement. La cause de Baha'u'llah ne possède-t-elle pas ses qualités mêmes? Avec la création d'une fondation appelée Forum pour la gouvernance globale, nous avons commencé à créer en fait ce que nous avons appelé 10 000 conversations autour du projet de réforme des Nations Unies. Il y a eu déjà une centaine de ces conversations qui ont eu lieu dans différents endroits. Ces conversations ne sont pas nécessairement des conversations exclusivement basées sur les principes Baha'i, mais des conversations que nous pouvons engager avec tous ceux qui ont un intérêt pour corriger les défauts de l'organisme mondial que nous avons, qui, comme nous l'avons vu, est un progrès sur le passé, mais certainement pas suffisant maintenant, puisque nous avons les possibilités et nous méritons en fait, comme l'humanité, beaucoup plus. Et cette fondation, donc ce forum, qui a un site, met à disposition une partie de ce que je viens de partager avec vous comme document que vous pouvez utiliser pour commencer à créer des conversations significatives autour de vous pour les gens qui seraient intéressés à la réforme de la société globale. Merci.
Merci. Alors, par contre, j'aurais une question. La force collective dont vous avez parlé a-t-elle une chance d'aboutir prochainement? Les gouvernants sont-ils prêts, d'après vous?
En fait, la question de savoir si maintenant les États sont prêts pour un changement, nous avons une réponse de l'instance même qui doit s'occuper de cette réforme des Nations Unies. Et cette année, 2020, est le 75e anniversaire de la création de l'ONU. Donc, l'ONU a été créée en juin 1945. Et pour ces 75 années d'existence, l'Organisation des Nations Unies a décidé d'avoir toute une série d'activités cette année. Ça s'appelle l'ONU @75. Le secrétariat des Nations Unies est arrivé à la conclusion qu'aujourd'hui même, parmi les États, il n'y a pas un grand intérêt à réformer les Nations Unies. Ils sont réalistes. Monsieur Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est un homme réaliste. Mais ils ont décidé de commencer un programme avec 11 millions de dollars de budget pour la promotion de l'idée de la réforme des Nations Unies au niveau de la base de la société, au niveau des masses. Alors, ils ont commencé toute une série d'activités avec les réseaux sociaux, en contactant les mouvements de jeunes, en invitant les étudiants dans différentes universités pour commencer à débattre de la question de la réforme des Nations Unies. Et pour ne pas créer des ennuis avec les États, ils ont dit « Ok, ça c'est aussi la vision que nous avons pour 2045. » Alors, en mettant cela, ils ont voulu amadouer les gouvernements parce que finalement, le secrétaire général des Nations Unies est élu par les gouvernements, qui sont par les représentants des gouvernements au sein des Nations Unies. Mais c'est très intéressant et très intelligent la manière dont le secrétariat est en train de faire cela, parce qu'on sait que de nos jours, les mouvements sociaux ont la possibilité de faire changer les politiques des États. Parfois, des mouvements sociaux avec un caractère négatif, parce que le populisme, par exemple, est un mouvement social dont le but, c'est en fait de propager leurs propres idées. Mais l'existence même de populisme nous dit que, en fait, une petite partie de la population, si elle est convaincue, elle arrive à avoir un impact important sur la société. Nous aussi, à ce forum pour la gouvernance globale, nous avons décidé de faire une action parallèle. D'une part, nous sommes en train de contacter les États, les ambassadeurs de différents pays aux Nations Unies, les gouvernements, mais aussi le monde académique, des universités, etc., pour propager l'idée de cette réforme globale. Et parallèlement, nous avons décidé justement d'avoir ces 10 000 conversations dont le but, c'est de créer une conscience mondiale pour le changement. L'idée vraiment est la suivante. Le jour où le système actuel verra son échec complet, et malheureusement, on le voit tout le temps, ou peut-être heureusement, on le voit tout le temps, et quelqu'un dira « Ok, maintenant c'est le moment de la troisième réforme. Nous avons eu la Société des Nations, malheureusement ça a demandé une guerre. Nous avons eu l'Organisation des Nations Unies, malheureusement ça a demandé une guerre. Puis maintenant, nous avons une troisième opportunité. Cette opportunité est précédée aujourd'hui par au moins deux choses. Une pandémie et un mouvement global contre le racisme et différentes discriminations. Est-ce que c'est suffisant pour nous réveiller ou pas? On verra. Mais en tous les cas, nous allons entendre de plus en plus des voix qui demanderaient un changement du système de gouvernance mondiale. Et le jour où tout le monde ou une bonne partie de la population en est convaincue, nous allons l'avoir. Et il ne faut pas oublier ce que la Maison de justice a répété aussi. Dans ce mouvement mondial qui existe dans cette direction, il y a quand même une force, la force de la foi qui est nécessaire, et la communauté Baha'i est en train d'ajouter cet aspect-là aux efforts internationaux pour la réforme.
Merci. Donc, il y aurait une autre petite question. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle organisation, telle qu'on peut l'imaginer, apportera plus de justice et sur quelle base?
Alors, le but même, évidemment, de cette réforme est d'apporter de la justice. Et les bases qui ont été utilisées, d'abord, c'est la Maison celle de justice, dans une de ses lettres, dit que la génération, la dissémination et l'utilisation du savoir est un droit humain et qui demande la participation universelle. Tout ce qui porte ou va vers la justice doit nécessairement avoir la participation universelle. Jusqu'à maintenant, toutes les réformes du système mondial ont été faites par une minorité de gens. La Société des Nations, je répète encore, l'Organisation des Nations Unies sont le résultat de la pensée d'une centaine d'hommes blancs en cravate dans une pièce fermée qui ont décidé comment serait la suite de la société mondiale. Ça ne sera plus le cas. La prochaine réforme sera le résultat de la participation universelle. Et en fait, si on veut le penser comme ça, l'arrivée même des réseaux sociaux était la condition nécessaire pour qu'une telle réforme puisse avoir lieu. Alors pour ceux qui se plaignent de réseaux sociaux et tout le mal que cela apporte, pensez aussi à tout le bien que cela peut apporter. C'est la première fois que toute l'humanité a une voix. La première fois dans l'histoire de l'humanité que toute l'humanité a une voix. Elle ne l'avait pas avant. Baha'u'llah la lui a donnée. Aujourd'hui, il nous incombe de l'utiliser de manière positive et la justice viendra avec la participation universelle. Sur le plan plus concret, évidemment, par exemple, quand nous prévoyons l'abolition du droit de veto, évidemment, le droit de veto est une injustice qui a été imposée au monde par, même pas plusieurs hommes, 5 hommes. Staline, Churchill, Roosevelt, les 3, ils se sont réunis et ils ont décidé que, par exemple, les Nations Unies devaient avoir un conseil de sécurité et il devait y avoir un droit de veto au conseil de sécurité. C'est une injustice dans le monde qui est le résultat de décisions de 3 hommes. Et même parmi ces 3, il y avait 2 qui vraiment ont insisté. Staline ne voulait aucun pouvoir qui serait au-dessus de l'État soviétique. Roosevelt avait peur d'avoir le même sort pour les Nations Unies que pour la Société des Nations, parce que le président Wilson, qui avait proposé la création de la Société des Nations, n'a pas pu convaincre son propre Sénat pour que les États-Unis soient membres de la Société des Nations. Et Roosevelt avait peur que s'il ne met pas quelque chose qui donne un statut spécial aux États-Unis, ça ne passerait pas. Ce n'est plus le cas. Nous ne dépendons plus aujourd'hui pour la création de quelque chose de nouveau de ces quelques idées. Évidemment, ceux qui ont ce pouvoir vont s'opposer encore. Mais l'évolution nous montrera sans aucun problème que la justice va être appliquée par la participation universelle en même temps que la création de ce nouvel organisme sera le résultat de participation universelle, mais aussi le mécanisme de fonctionnement. Par exemple, nous avons prévu que la représentation des États dans l'Assemblée générale des Nations unies ne serait plus un pays, un vote. En apparence, c'est très juste, un pays, un vote, finalement. Et puis, cela veut dire que la Chine, avec 1,3 milliard, 4 milliards d'habitants, a le même nombre de votes que Fidji avec 14 000. Je ne sais pas qui appellerait ça justice, mais en tous les cas, nous avons prévu un système pondéré de vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques.
Alors, une nouvelle question. En fait, vous nous avez indiqué que les Bahaïs avaient fait une proposition, enfin, avaient participé à la proposition justement de cette nouvelle organisation. Pouvez-vous nous préciser dans quel cadre, puisque les Bahaïs n'ont pas le droit de faire de politique? Donc, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu?
Deux points. D'abord, les trois auteurs de ce livre, de cette proposition devenue maintenant livre, ont agi en tant qu'individus. Ce n'est pas une institution Bahaï qui a fait cette proposition. Mais deuxièmement, le concept de participation dans la politique, nous avons eu récemment une lettre de la Maison universelle de justice qui nous a expliqué le concept Bahaï de non-participation à la vie de politique partisane et qui serait utile à étudier peut-être dans une autre séance comme celle-ci. Mais en tous les cas, ces amis-là ont pris Baha'u'llah comme point de référence. Et par exemple, dans la lettre que Baha'u'llah, dans la tablette que Baha'u'llah a dirigée à la reine Victoria, il dit aux dirigeants de la terre, réconciliez-vous de manière à vous passer d'armement sauf pour maintenir la sécurité de vos territoires et possessions. Faites attention de ne pas méconnaître le conseil de l'omniscient. Ou bien, soyez unis au roi de la terre pour apaiser la tempête de la discorde entre vous et apporter la tranquillité à vos peuples, si vous pouvez le comprendre. Si l'un de vous prend les armes contre un autre, levez-vous pour vous opposer à lui, car ce n'est que justice évidente. Si vous entrez dans les détails de cette proposition, c'est en fait inspiré par les principes que Baha'u'llah lui-même a établis, par les principes que Abdu'l-Bahá a établis quand il s'est adressé dans le secret de la civilisation divine au peuple d'Iran en leur recommandant une manière de gouvernance qui serait adapté pour une civilisation divine. Ce qu'ils ont pris comme référence dans cette proposition qu'ils ont faite, c'est ce que le gardien a dit dans toutes les lettres qui font l'objet du livre L'Ordre mondial de Baha'u'llah et qui explique exactement la vision bahaï d'un monde uni et comment seraient les instances et les institutions d'un monde uni. Donc, ils ne sont pas entrés pour d'ailleurs même critiquer l'Organisation des Nations Unies, tout au contraire, et comme nous l'avons fait aussi ce soir, d'abord nous avons parlé du progrès que le monde a réalisé pour arriver à là où nous sommes. La question c'est, nous pouvons plus, nous devons plus, nous devons faire plus, et pour cela nous utilisons l'exemple que nous avons dans nos écrits.
Merci. Donc, la question suivante, comment expliquez-vous la phrase « une solution spirituelle aux problèmes économiques du monde » ?
Alors, nous avons de plus en plus connaissance de la loi de Hurullah dans la foi. Récemment, le conseil des représentants de Hurullah en Europe a créé, et je suis certain que vous devez l'avoir vu, une série de 9 cartes sur le thème de Hurullah. Chaque feuille, décrivant un des aspects justement de cette solution spirituelle aux problèmes économiques. En fait, la première étape de cette question, de cette solution spirituelle aux problèmes économiques, c'est de ne pas opposer ces deux réalités. Économie d'une part, et spiritualité d'autre part. Et la loi de Hurullah est justement la loi qui permet de combiner ces deux réalités, de donner une dimension spirituelle à la question économique. Donc ce n'est pas par opposition, mais par collaboration. d'une part. D'autre part, la loi de Hurula a créé cette attitude nouvelle. En fait, la différence entre spirituel et matériel, ce n'est pas le contenu de la chose, mais notre attitude envers cette chose-là. Nous savons par exemple que Baha'u'llah a dit, que Abdu'l-Bahá a dit, la richesse est recommandable au plus haut niveau si elle est acquise par le commerce, les arts et les activités qui bénéficient aux autres et qui est utilisée pour le bien des autres. Donc la richesse en tant que telle n'est pas matérielle ou pas matérielle. La richesse est un moyen qui, si elle est utilisée pour des buts bénéfiques aux autres, devient spirituelle. Donc la solution spirituelle aux problèmes économiques, c'est de comprendre la dimension spirituelle de la chose économique avec une nouvelle attitude. Par exemple, dans le cas de Hurula encore, une nouvelle attitude envers la dépense, une nouvelle responsabilité au moment de la consommation.
Merci. Donc, question suivante. Comment se confronter ou faire face à ceux qui ont des avantages, tout ce qui est lobby, division, enfin ceux qui prônent la division, la guerre et tous les intégrismes de tous bords, religieux, écologistes.
Je réalise qu'en adoptant la formule actuelle, nécessairement nous avons une conversation qui est dans un seul sens. Et en principe, tous ceux qui sont dans cette salle ou sur Zoom auraient des points très importants à contribuer à ces questions-là. Puisque l'oreiller est là et le micro est ici, je me permets juste de partager quelques idées, mais je suis certain que si on avait la possibilité de faire participer tout le monde, on trouverait beaucoup plus de sagesse dans cette salle que seulement quelques mots de ma part. Abdu'l-Bahá nous a donné une idée. Et l'idée, c'est à chaque pensée de guerre, opposer une pensée de paix. À chaque pensée de destruction, opposer une pensée de construction. Il nous a aussi expliqué qu'on ne peut pas combattre l'obscurité. Ou plutôt, pour combattre l'obscurité, il faut amener la lumière. Ce que moi je comprends, et je suis certain que ce que d'autres comprennent pourrait s'ajouter à cela avec beaucoup d'intérêt, ce que moi je comprends, c'est que nous construisons quelque chose. Et ce quelque chose, du fait de se construire, va en elle-même, petit à petit, réduire l'espace pour ces pensées négatives. Ces pensées négatives se propagent parce qu'il n'y a rien qui les limite. Parce que les gens se disent, devant l'injustice, quelle solution j'ai? Puis certains ont pensé que la solution devant l'injustice, c'est de prendre la mitraillette et, comme Che Guevara, combattre l'injustice. Finalement, le pauvre, il a souffert seulement de manque d'informations. S'il avait d'autres moyens et d'autres solutions, peut-être qu'il ne serait pas ce qu'il est devenu. Donc, personnellement, je ne pense pas tellement à combattre les idées intégristes, etc. Je pense beaucoup plus, nous construisons quelque chose qui deviendra la référence pour tout le monde. Et le jour où les gens sauront qu'il y a d'autres alternatives, ils n'auront plus besoin de rester avec les peu de solutions que nous avons aujourd'hui disponibles. Pensez à un mouvement social aujourd'hui. Quelque chose de très spécifique. Quand nous parlons des gens, avec les gens au sujet des institutions Baha'i, et nous leur expliquons défauts du système démocratique actuel. Je suis certain que chacun d'entre nous a eu à un moment ou un autre d'expliquer en fait les défauts de la démocratie actuelle. Alors, dès que vous en parlez, les gens disent « Ah, donc vous êtes pour la dictature ». Ce qui montre très clairement que le monde aujourd'hui ne connaît que cette démocratie imparfaite ou dictature. Et entre les deux, il faut choisir parce qu'il n'y a pas autre solution. Nous en avons une. Le système Baha'i d'organisation de la société n'est ni, comme le dit le gardien, 100% démocratie parce qu'il n'a pas les défauts de la démocratie et non pas les défauts de l'autoritarisme, etc. Donc, c'est par manque d'options, à mon humble avis, que les gens tendent à aller dans certaines directions, et en leur offrant l'option, l'alternative, nous pouvons être beaucoup plus constructifs qu'en essayant de combattre les idées négatives.
Dernière question à ce jour. Qu'est-ce qui, selon vous, ferait renoncer les États à leur droit de veto?
Nous avons discuté de ça avec quelques ambassadeurs, surtout de différents pays, en posant la question. Qu'est-ce qui ferait à un État de renoncer à son droit de veto? Et une des choses qui pourrait leur expliquer cela, c'est que, en fait, le droit de veto n'est pas un droit. C'est tout simplement la possibilité de mettre un obstacle. Avec un droit de veto, on ne peut pas imposer une idée. On peut empêcher une solution. Alors, jusqu'où est-ce que les États qui ont le droit de veto vont se satisfaire tout simplement de la possibilité d'empêcher que quelque chose arrive? Dans notre formule de droit de vote à l'Assemblée générale, nous proposons une pondération. La représentation d'un pays à l'intérieur de l'Assemblée générale se ferait par un calcul pondéré de vote en fonction de la souveraineté étatique d'une part, de la population et de l'économie. Si on utilise une formule comme celle-là, si on utilise une formule comme celle-là, par exemple, de la manière dont nous avons calculé, eh ben, la Chine aurait 11% de droits de vote à l'Assemblée générale, l'Inde aurait 9%, les États-Unis auraient, l'Inde aurait 7%, les États-Unis auraient 9%, etc. Les États qui sont grands ou avec une grande économie auraient un pourcentage de vote plus élevé à l'intérieur de l'Assemblée générale elle-même, là où aujourd'hui ils n'ont qu'un vote sur 180. Alors les États-Unis aujourd'hui ont un vote à l'Assemblée générale sur 180, mais le droit de veto au Conseil de sécurité. L'idée, c'est balancer cela, oublier le droit de veto, mais vous aurez une participation plus grande dans les décisions de l'Assemblée générale. Ce qui correspond à votre population, à la taille de votre État, de votre population, à la taille de votre économie. Pourquoi est-ce que certains États importants, enfin tous les États qui sont au Conseil de sécurité avec le droit de veto, sont des États grands et importants? Pourquoi est-ce qu'ils veulent maintenir cela? Parce que de l'autre côté, ils ont une voix qui ne porte rien. Un seul sur 190. Donc, ce que nous sommes en train de proposer, c'est un rééquilibrage de leur possibilité de faire quelque chose, avec une différence. Nous proposons que les résolutions de l'Assemblée générale, qui ne sont pas obligatoires aujourd'hui, le deviennent. Alors, quel est l'avantage d'un État qui aujourd'hui a juste la possibilité d'empêcher quelque chose, que de s'unir avec quelques autres et avec une majorité des voix, faire des choses dans une Assemblée générale plus représentative de toute l'humanité? En même temps, nous ne nous faisons pas d'illusions et il est très probable que ça ne va pas être seulement la logique de notre présentation, mais les catastrophes qui vont arriver qui les y mèneront, de la même manière que les guerres mondiales l'ont fait. N'oubliez pas ce deuxième paragraphe du message de la paix de la Maison de justice en 1985. La promesse de la paix mondiale, dans le premier paragraphe, disait « Cette paix que tout le monde attendait, que le prophète enchantait, etc., etc., est enfin à portée de la main. Elle est la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Elle n'est pas seulement possible, mais elle est inévitable. » Mais elle est inévitable. Le deuxième paragraphe dit « Mais cette paix inévitable. » Pardon, d'arriver à cette paix inévitable pourrait faire de deux manières, ou bien comme résultat de catastrophes et de souffrances, ou comme une décision volontaire des États. Nous avons toujours ces deux options dans le monde. Si nous décidons volontairement demain d'apporter ou d'accepter la médecine que Baha'u'llah a amenée pour le monde malade, le malade va être guéri tout de suite. Si nous décidons de ne pas y faire, de ne pas y prêter attention, ça arrivera, mais plus tard et avec un peu de conséquences, ou beaucoup de conséquences.
Merci. Donc, est-ce qu'il y a des personnes sur Zoom qui voudraient poser une question dans ce cas-là ? Ah, il y a encore une question a priori. Les Baha'is, d'après ce que vous dites, ne rentrent pas en conflit avec les gouvernements, plus généralement avec les organisations et les individus. Ils ne s'opposent pas, mais apposent un processus de développement à l'ordre existant. Dans ce processus, comment peuvent-ils éradiquer la désunion ?
Si je comprends bien, quand on dit « apposent un processus de développement de systèmes existants », c'est qu'on pense essentiellement à l'évolution du système. Et ma compréhension est tout à fait personnelle et imparfaite, puisque je n'ai pas de citation particulière Baha'i pour l'appuyer. Et je ne sais pas si ça va être tout simplement une évolution facile et simple. Et ça va être certainement une coupure, même drastique. Sauf que ce n'est pas nous qui amenons cette coupure. Ce n'est pas nous qui cherchons la destruction du système actuel. Ça se fera de toute façon. C'est pour ça aussi que la Maison de Justice nous rappelle que nous, Baha'i, dans le plan divin, notre but, ce n'est pas de faire en sorte que les institutions actuelles arrivent à leur terme. Notre but, c'est de créer un modèle nouveau pour que le jour où ce système disparaît, il y ait une alternative viable et existante pour le monde. Donc, je ne suis pas certain si nous pouvons directement et de manière complète réduire la désunion. Mais nous pouvons le faire, évidemment, de manière relative. Et en fait, la participation de la communauté internationale Baha'i dans l'ONU et les différentes institutions a toujours ce côté de modérateur, ce côté des gens qui cherchent à faire entendre les gens entre eux. Et par exemple, en 2000, quand il y avait cette réunion qu'on a appelée la réunion du millénaire, en mai 2000, il y avait 1400 organisations non gouvernementales dans le monde qui se sont réunies pour célébrer justement le début de ce qui, à l'époque, était en 2000, les objectifs, en anglais, ce n'était pas les objectifs de développement durable, mais les objectifs de développement tout court. Et pour cette séance de 3 jours de réunion pour réunir 1400 ONG, organisations non gouvernementales, dans le monde entier, ils ont choisi la communauté Baha'i pour avoir la présidence de ces séances et pour assurer, en fait, l'équilibre et la modération dans les délibérations de cette instance. Donc, les communautés Baha'i aussi, au niveau local, les instances Baha'i au niveau national et international, sont en train de participer dans ce que la Maison universelle de justice appelle la participation au discours, que ce soit discours social, que ce soit discours politique. Nous donnons leur opinion, nous essayons dans les débats d'être un élément modérateur. Donc, ça, c'est une participation et définitivement positive. Mais est-ce que nous pensons que c'est de cette manière-là que la désunion va disparaître? Je ne pense pas. La désunion viendra, la solution à cette désunion viendra lorsque elle sera tellement grave qu'elle ne sera plus supportable et qu'on cherchera autre chose.
Bien, ben nous arrivons malheureusement au terme de cette rencontre de cet après-midi. Le temps passe vite quand le sujet est intéressant et qu'il est très bien raconté. Donc, un grand merci à M. Samandari pour toutes ces précieuses paroles et aux rappels et à tous ces rappels par rapport aux solutions que les bails préconisent. Donc, si vous souhaitez, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez revoir cette visioconférence sur le site internet www.bahai-chambéry.fr ou alors sur la page Facebook « Les bails de Chambéry et leurs amis ». Donc, merci à tous, au revoir à tous et merci de votre participation.